auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service de ce jour. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Merci à vous tous qui nous écoutez en ligne sur www.radiocapi.net. On va parler entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir? Quelles sont les stratégies de développement de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec le professeur Dédé Aliango, secrétaire général académique de Leadership Academia University. Professeur Dédé, bonjour.
Bonjour, monsieur Kachama.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Jody Daniel Kachama au micro. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiocapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiocapi.net, la radio en différé à votre service.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous allons parler entrepreneuriat. Eh bien, en République démocratique du Congo, de nombreuses femmes se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Certaines le font juste par nécessité. Et c'est dans le but de subvenir aux besoins des ménages et non pour créer de la richesse. Celles qui veulent développer leurs activités font face à de nombreux défis qui parfois décourage de plus en plus. Plusieurs organisations de l'écosystème entrepreneurial, RDC, encouragent les femmes à entreprendre. Par ailleurs, elles offrent des opportunités de formation et des financements de leurs activités. Alors, quelles sont les stratégies de développement de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo? Nous recevons aujourd'hui le professeur Dédé Aliango, secrétaire général académique de Leadership Academia University. Professeur Dédé Aliango, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Kachem.
Bien. L'entrepreneuriat.
Oui.
C'est quoi l'entrepreneuriat?
Alors, l'entrepreneuriat découle du verbe entreprendre, qui est tout simplement mettre en œuvre une activité économique créatrice de valeur. C'est-à-dire que, voilà, on va commencer une entreprise qui va pouvoir répondre à un besoin sur le marché. Okay? Un besoin qui est exprimé sur le marché.
Oui.
Et donc, nous, on va pouvoir répondre à ces besoins-là en mettant en place une activité économique. Et cette activité doit généralement être créatrice de valeur.
Alors, quel état des lieux vous faites de l'entrepreneuriat dans notre pays, en RDC?
Alors, de manière générale, les Congolais, c'est vraiment un entrepreneur. On entreprend beaucoup au Congo. Le seul souci, c'est que après une année, deux ans, la plupart d'entreprises disparaissent. Ça, c'est vraiment.
Pourquoi?
Oui, ça,
pourquoi
c'est
on n'arrive pas à tenir longtemps?
Ce sont nos études empiriques qui montrent ça, mais c'est parce que il y a déjà beaucoup d'obstacles par rapport aux différentes phases d'entreprise. Par exemple, lorsqu'on entreprend, une entreprise a plusieurs phases. On a la phase de démarrage. Dans cette phase-là de démarrage, il y a déjà les obstacles qui s'imposent. Dans la phase de démarrage, généralement, on parle des financements. J'ai une idée. Je pense qu'il y a un besoin sur le marché. Je dois répondre à ces besoins-là. Mais est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour mettre en œuvre cette activité-là? Et c'est là que ça coince, parce que la plupart d'entrepreneurs n'ont pas suffisamment de ressources pour démarrer leurs activités.
Oui.
Et alors, lorsqu'on regarde qui peut venir en aide à ces entrepreneurs-là, évidemment qu'il y a plusieurs autres ressources. Par exemple, les institutions financières peuvent aider les entrepreneurs. Le problème, c'est que à cette étape-là, ces entrepreneurs n'ont pas assez de garanties pour pouvoir avoir accès à ces financements.
Ouais, ces financements, oui.
Voilà. Donc ça, c'est déjà un exemple. Mais bon, ils peuvent aussi se retourner vers des investisseurs. Mais la même chose se pose. Vous n'avez pas encore une activité. Là, on est en train de parler de l'idée. L'idée peut être bien ficelée, bancable, mais on n'a pas encore de l'expérience sur le terrain. Donc, à cette étape-là, par exemple, le financement est un grand problème. Ce qui fait que la plupart d'entreprises commencent, voient les jours, mais disparaissent tout de suite à cause de ce problème-là de financement.
Juste 2 ans après.
Oui, mais 2 ans après, ça veut dire qu'elles ont déjà commencé à fonctionner. Donc, quelque part, on a trouvé des ressources pour démarrer. Mmh. Mais après 2 ans, on peut être dans une autre phase parce qu'après le démarrage, il faudrait qu'il y ait la croissance des activités. Il faut qu'il y ait un point bascule qui nous amène à commencer à développer l'activité, à commencer à avoir de la clientèle, beaucoup de demandes, répondre à cette demande-là. Et au niveau de la croissance, il y a d'autres obstacles qui s'imposent. Là, on voit que c'est le problème de management, le problème de gestion. Parce que l'entrepreneur a l'idée, l'entrepreneur répond à un besoin sur le marché, mais est-ce que l'entrepreneur a toutes les capacités possibles pour gérer une activité en développement? Okay.
Mais il peut s'entourer des gens qui ont toutes ces capacités.
Oui, il peut s'entourer de ces gens-là, mais en réalité, beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas et ça, c'est typiquement lié un peu à notre contexte et puis à notre culture. Peut-être qu'on va en parler tout au long de l'émission. Mmh. Mais c'est ça qui fait que lorsque l'activité commence à se développer et qu'il n'y a pas de dispositif de gestion efficace, ben, on finit par s'effondrer.
Bien, on finit par fermer boutique. Hein.
Oui.
On va accueillir déjà un premier auditeur qui nous appelle depuis Fongourmé. Et il s'appelle Justin Koulou. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Et je dis bonjour à madame Dédé et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
En tout cas, vous l'avez bien souligné dans l'exposé de notre sujet qu'il y a plusieurs organismes internationaux et même régionaux et même provinciaux qui n'arrivent pas à répondre favorablement aux attentes de nos femmes entrepreneurs. En tout cas, dans la plupart de mamans entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, si on peut bien le dire, ils s'occupent de la vente des produits de première nécessité, le denrées alimentaires. Et que ici, chez nous, dans la plupart des cas, les produits de première nécessité proviennent de la campagne. Alors, à la campagne, nous observons des obstacles. Il y a la route de desserte agricole qui est impraticable, qui peut-être demande les hausses de prix de transport. Nous avons encore, sur la première question de savoir quelles sont les stratégies que nous allons mettre en marche. Donc nous devons arranger d'abord les routes de desserte agricole. Nos marchés sont envahis par les produits importés. Imaginez quelqu'un qui prend le feuillage, je ne sais pas, à l'Oboudi, ailleurs. Bon, les feuillages là sont négligés et peut-être ça arrive à fanir même sans voir quelqu'un qui achète ça. Et nous avons encore les transports, les moyens de transport qui est très cher suite à l'impraticabilité.
Justin, quelle est votre question? Justin, quelle est votre question? Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
J'adresse à l'invité. Est-ce que il a déjà eu de mamans financées dans notre pays, les mamans entrepreneurs? Et pour être financées, quelles sont les données, parce que les documents demandés pour être un entrepreneur, il y a 9 presque 10 documents à remplir, les statuts notariés, RCSM, impôts et tout ainsi de suite. Alors tout cela, ça bloque les financements et même le moment de se lancer formellement dans l'entrepreneuriat et nous restons seulement avec les débrouillards pour subvenir aux besoins de la maison. Qu'est-ce que notre invité va nous donner comme solution ou soit va nous informer que même si vous n'avez pas les documents, qu'est-ce qu'on peut faire pour être assisté?
D'accord, merci.
Monsieur Jody, le taux de dollars,
voilà. D'accord, beaucoup de problèmes, Justin. Merci beaucoup d'avoir appelé. Professeur Dédé, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, monsieur a parlé de beaucoup de choses. Hein. Moi, je veux me concentrer sur sa question.
Le financement.
Oui. Est-ce qu'il y a de femmes qui sont financées?
Comment
accéder au financement? Donc, ici, j'étais en train de parler des financements de manière générale pour dire que l'accès au financement demeure un problème. On peut pas ignorer ces problèmes-là. Et notamment pour les femmes. Surtout que les femmes ont généralement pas accès aux revenus. Et donc, ce qui fait que ne détenant pas, même aux actifs, ne détenant pas suffisamment de garanties pour être financés par les institutions financières. Mais comme il le disait, il y a plusieurs dispositifs qui soutiennent les femmes. Maintenant, après, lorsqu'il parle de être financé sans avoir un seul document et tout, c'est quand même un souci aussi. Il faut pouvoir avoir un document. Mmh. Parce que sinon, on va encourager l'informel. Ce n'est pas ça l'objectif. Je sais que l'informel joue un grand rôle dans les ménages, notamment en termes de réponse aux besoins sociaux de base. Mmh. Ça, c'est évident. Mais si on veut avoir accès au financement, même si c'est le financement du gouvernement, même si ce sont des ONG ou des organisations internationales, il faut quand même avoir des papiers, il faut quand même avoir une activité, il faut quand même prouver que l'activité est viable, ne fût-ce que ça. Après, au niveau...
Faut formaliser.
Formaliser.
Après, activités.
Au niveau du guichet d'entreprise, il y a quand même différentes sortes d'entreprises qu'on peut mettre en place. Il y a des entreprises individuelles qu'on appelle généralement établissements qui sont liées directement à la personne qui entreprend. Et pour ce genre d'entreprise, on ne demande pas beaucoup de papiers tels qu'il l'est dit. Mmh. Et peut-être maintenant ça a changé, mais dans le temps, en tout cas quand moi je le fais, parce que je suis entrepreneur aussi, quand nous l'avons fait avec mon époux, c'était pas compliqué. Et donc, du coup, ça peut aussi se faire. Et je sais qu'il y a un profil parmi les entreprises qui ne sont pas forcément les établissements, mais vous pouvez être reconnu pour que on ne puisse pas beaucoup vous déranger et qu'on ne puisse pas vraiment vous considérer comme l'informel. Donc, du coup...
Il faut d'abord le registre, le RCCM, c'est ça, avoir ces documents.
Oui, il faut avoir ces documents.
Le registre de commerce.
Oui. Si on veut vraiment avoir accès au financement, peu importe la source de financement, il faut un minimum de reconnaissance, il faut une activité aussi qui fonctionne. Parce que sinon, tout le monde viendra dire, j'ai une activité, j'ai besoin de financement. Il faudrait prouver.
Est-ce qu'on peut dire les mamans, par exemple, qui vendent au marché, qui vendent les légumes et autres, est-ce qu'on peut les qualifier d'entrepreneurs?
Alors, j'ai commencé par dire que l'entrepreneuriat était l'exercice d'une activité économique. Est-ce que ce moment-là exerce une activité économique? Je pense que oui, parce que c'est une activité créatrice de valeur. Maintenant, à quel niveau de valeur, c'est discutable. Par contre, il faut distinguer l'entrepreneuriat de survie avec l'entrepreneuriat vraiment créatrice de valeur et qui peut se développer. Ici, en RDC, la plupart des femmes qui entreprennent, c'est vraiment pour subvenir à leurs besoins.
Aux besoins des ménages.
Des ménages. Du coup, la caisse de l'activité confondue avec la caisse du ménage. Donc, c'est pourquoi ces activités-là n'évoluent pas. Parce qu'elle peut faire un chiffre d'affaires, par exemple, de 100 000 francs congolais la journée. Dès qu'elle arrive à la maison, il y a un enfant qui tombe malade. Elle amène l'enfant à l'hôpital. Ce sont les 100 000 francs congolais qui viennent de l'activité économique qui vont pouvoir soigner l'enfant. Et donc là, on est dans un cercle vicieux. Donc, on n'évolue pas, on tourne en rond. Parce que on n'a pas d'autres revenus que ces revenus-là. La caisse de l'activité confrontée avec. Mais de l'autre côté, il y a vraiment des personnes qui entreprennent pour une grande création de valeur, donc des richesses. Et donc, dans ces cas-là, on pourra dire que ces entrepreneurs-là, ces femmes entrepreneurs-là, peuvent aussi rencontrer les difficultés par rapport au financement, par rapport à la gestion, mais c'est gérable. Ça veut dire qu'ils ont d'autres revenus, peut-être les revenus de l'époux, peut-être qu'ils ont d'autres revenus, et elles entreprennent à côté. Alors, il faut différencier ces deux.
Ils ont eu un crédit bancaire.
Oui. Il faut différencier.
D'accord. Alors, quels sont les autres, à part les soucis des financements, des gestions, quels sont les autres obstacles à l'entrepreneuriat féminin?
Alors, il faut situer les obstacles. D'abord, ceux qui sont liés à l'entreprise et à l'entrepreneur lui-même. Et puis, ceux qui sont externes, mais qui peuvent influencer l'entreprise. Alors, les obstacles internes à l'entrepreneur et à l'entreprise sont ceux que j'ai cités. à la phase de démarrage, c'est le financement. À la phase de croissance, c'est la gestion. À la phase de maturité, c'est de savoir se retirer. Parce que quand on arrive à un certain niveau, on a une grande part de marché. Ça veut dire qu'on commence à jouer parmi les entreprises, les moyennes, les grandes entreprises. Alors, il faut savoir se retirer et laisser. Quand je dis se retirer, ça veut dire peut-être aller dans le conseil d'administration, être là pour les orientations stratégiques et laisser les personnes qui ont la compétence, qui ont les capacités de gestion de mettre en œuvre ces orientations stratégiques-là. Mmh. Alors,
ce qui n'est pas évident souvent les cas avec les entrepreneurs congolais.
C'est pas
il veut être là, gérer son affaire lui-même.
Lui-même. Mmh. Et c'est ça le plus grand problème.
Et c'est donc, un problème de confiance ou
Oui, c'est un problème d'abord de formation. Mmh. Des formations parce que bon, on entreprend parce que on a une idée, parce que on pense que ça va marcher et que le marché est là, la demande est disponible. Mais après, il faut se poser la question, est-ce que j'ai toutes les capacités possibles pour mener cette activité là au développement? Ça c'est une chose. Donc il faut se former, il faut la formation. Ça c'est aussi un autre obstacle. Mais il y a aussi la question de confiance. En réalité, au niveau de notre contexte congolais, les études ont montré que on a du mal à nous faire confiance. Nous avons du mal à nous faire confiance.
Mmh. Il y a trop de méfiance.
Oui, hein. Il y a trop de méfiance, mais parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus.
Beaucoup d'abus, oui.
Donc, du coup, c'est quelque chose à travailler là-dessus, mais aussi l'entrepreneur doit s'entourer de personnes en qui il a confiance. Un autre obstacle au niveau de l'entrepreneuriat, d'abord, aussi, c'est la collaboration. C'est aussi lié à la confiance. Mmh. Beaucoup d'entrepreneurs évoluent solitairement, alors que les études montrent que l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur n'est pas forcément un être solitaire. Si les Congolais pouvaient se mettre ensemble et entreprendre, je pense que les résultats auraient été différents que si vous entreprenez seul. Donc, il y a aussi cette question.
L'union fait la force.
Oui. Mais alors, quand on regarde aux facteurs externes, je vais prendre un seul facteur, le facteur culturel. OK? Mmh. Le facteur culturel, c'est un facteur externe, c'est ce qui est vécu dans la société, mais qui va influer sur l'entrepreneur, surtout par rapport aux femmes. Il y a encore cette culture, cette mentalité où les femmes ne peuvent pas faire grand-chose. Les stéréotypes
oui.
Qui font que à un certain niveau, même les femmes elles-mêmes commencent à avoir des doutes. Est-ce que je peux y arriver?
Elles n'ont plus confiance en elles-mêmes.
Elles n'ont plus confiance en elles-mêmes parce que tout simplement, la culture leur impose cela. Et ça peut aussi affecter même les investisseurs ou les prêteurs. Parce que si c'est une idée qui est véhiculée dans la société, que les femmes ne peuvent pas y arriver, ne peuvent pas gérer des entreprises, ben, c'est lui qui va prêter l'argent, donc l'institution financière est aussi quelque part, le banquier est aussi quelque part conduit par ces idées qui sont véhiculées au sein de la société. Ces stéréotypes-là. Donc vous voyez que les obstacles sont internes et externes.
Bien, il y a trois auditeurs qui voudraient bien vous poser des questions. Justin, plutôt Jérémy Mwamba nous appelle des Lumbashi et puis bienvenue Kikala des Kikwite. Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, hein. Bonjour également à l'invité. Bon, moi bonjour. Je me dis parce que la RDC, notre pays, fait face à une crise d'employabilité, et il s'installe aussi une certaine oisivité criante de la part de certains hommes, ce qui veut dire que la femme joue les gros, parce qu'actuellement, quand vous regardez dans d'autres coins, surtout dans des coins reculés, vous allez trouver que les hommes ne font plus rien pour la plupart, parce qu'ils se disent nous n'avons pas de travail et ils se livrent au jeu des cartes. Et vous voyez, à l'opposé, c'est la femme qui fait le gros du travail. Ce qui veut dire qu'il faut que l'État congolais puisse prendre en charge cette femme qui fait son petit travail, mais il ne réunit pas le moyen conséquent pour pouvoir développer l'entrepreneuriat dans tout ce qu'elle fait. Et aussi, il y a un cas où il y a certains hommes qui, leurs femmes ont travaillé, ils ont étudié bien. Alors, le fait qu'ils font une activité quelconque, alors ils s'installent une crise de manque de méfiance et une crise de confiance. Ce qui veut dire que on ne sait pas développer les potentialités qui se trouvent dans la femme. Et pourtant, la femme joue un rôle vraiment déterminant dans notre pays. Il faut que l'État congolais puisse investir dans ces domaines, parce que moi, je vois pour la plupart des femmes, ce sont des femmes qui se réveillent à 5 heures, vous les voyez dans le bus, et ils vont à la recherche du pain quotidien. Ce qui veut dire que vous trouvez que l'homme n'a rien, et elles-mêmes disent que bon, les hommes ne font absolument rien, ils attendent quand la maman va travailler et rentrer le soir pour pouvoir, n'est-ce pas, se partager ce qu'il y a. Ce qui veut dire que il faut commencer à investir dans la femme, parce qu'on trouve que la femme est en train de propulser le pays et en allant vers l'avant, et il faut que réellement que l'État congolais crée quand même des canons par lesquels la femme peut soit prendre du crédit pour développer ce secteur, et quand ce secteur se développe, c'est la gagne de toute une nation, parce que vous savez bien que la femme dans notre pays joue toujours un rôle vraiment de premier plan, que ce soit à la maison, que ce soit partout, même dans les services où nous trouvons, la femme a toujours quelque chose à dire.
Merci
à faire,
Jérémy.
Pour pouvoir nous conjuguer et développer pour notre pays, parce que nous voulons que notre pays décolle.
Jérémy Mwamba,
est majoritaire, vous voyez, sur le plan démographique.
Merci Jérémy Mwamba. On va accueillir bienvenue Kikala de Kikwit. Bonjour.
Bonjour, cher Jérémy, bonjour.
On vous écoute.
Oui, le sujet est tellement intéressant. Les obstacles, c'est que les plans entrepreneuriales ne concernent pas que les femmes. Même nous, les hommes, quand nous essayons d'entreprendre, on est bité à plusieurs histoires. Mais quand on doit conjuguer cela au féminin, les femmes rencontrent beaucoup de difficultés que nous, les hommes. Vous savez, là, on a abordé l'aspect financier parce que l'entrepreneuriat, là, arrive avec le financement. Quand vous devez vous présenter auprès des institutions financières pour avoir un crédit, à l'opposé, vous devez présenter des garanties bancaires, par exemple. Nous savons tous avec nos régimes matrimoniales, souvent la femme est reléguée à la seconde place, c'est l'homme qui prend la part de lion, c'est l'homme qui est beaucoup plus représenté, que ce soit sur les documents fonciers ou tout autre document qu'on pouvait présenter à la banque comme garantie ou hypothèse. À ce sens-là, il arrive des fois que les femmes sont victimes de discrimination, qui n'ont pas facilement accès à des crédits. Nous savons, avec le détail que nous avons eu, que les femmes au-delà de tout ça ne sont pas tellement scolarisées que nous les hommes. Cet aspect-là fait aussi de sorte que les femmes n'ont pas assez d'informations ou ne savent pas manipuler les outils de technologie.
D'accord. Quelle est la question alors? Quelle est la question rapidement?
Oui, ma question serait, malheureusement, les outils-là n'est pas un enjeu de l'administration publique. Si au niveau des institutions qui emploient des documents pour que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, on peut laisser d'abord aux femmes, soit on leur donne un tarif pour traiter de façon qui se développer pour qu'on puisse élaguer toutes ces discriminations-là. Voilà, bonne journée.
Bien, merci. Emmanuel Fala, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody, et puis bonjour à notre madame l'invitée.
Bonjour.
Quelle est votre question, Emmanuel?
Oui, en suivant les explications données par notre invité du jour, j'ai deux petites questions à poser à notre invité. La toute première question est celle-ci. Quelles sont les capacités pour une femme entrepreneur pourvu qu'elle puisse activité dans le domaine de l'entrepreneuriat? Puisque tout au début, elle a parlé des capacités. Alors j'aimerais qu'elle puisse m'énumérer quelles sont les différentes capacités pour une femme entrepreneur. La deuxième question, elle est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire développer la femme entrepreneur dans ses activités? Malgré il y a des obstacles qu'elle trouve, bien sûr, les femmes entrepreneurs congolaises. Voilà mes deux petites questions que je voulais poser à l'invité. Puis, bonne suite de l'émission.
Bien, merci Emmanuel. Professeur Didier, à vous la parole.
D'accord. Je vais commencer pour notre premier intervenant. Mm-hmm. Il a relevé l'importance de la femme au sein de la société congolaise et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, même quand je parle de la culture ou alors des idées ou des coutumes rétrogrades, les études ont montré que ces coutumes ou ces idées rétrogrades font face à la crise. Et devant la crise, En fait, il y a comme une certaine réorientation. Ça veut dire que lorsque on peut dire que la femme ne peut pas entreprendre, la femme ne peut rien faire, mais devant la crise, les hommes sont ils n'ont plus de moyens. Ils sont devant un fait accompli.
Tout à fait.
Et donc, il faut qu'on mange à la maison. Et s'il n'y a que la femme qui peut faire ça, on la laisse le faire. Mais le grand souci, c'est que il y a toujours l'ombre de l'homme derrière. Mmh. Et il y a cette ingérence dans les activités. La femme peut travailler après un certain niveau de revenus. L'homme intervient et utilise cela. C'est ce qui fait qu'on reste dans les cercles vicieux. Et donc, voilà un peu.
Mais aujourd'hui, la femme n'a pas besoin de l'autorisation maritale pour entreprendre.
Non, elle n'en a pas besoin, mais ce que a dit le deuxième intervenant est vrai, c'est que lorsque vous êtes dans un régime matrimonial où vous êtes en communauté de biens et que vous devez prendre un crédit, en fait, vous devez signer tous les deux.
Comme ça jusqu'à aujourd'hui.
Ah oui. Vous devez signer tous les deux. Et donc, du coup, ça risque aussi de créer une limite, quoi, un frein.
Surtout si monsieur ne soutient pas madame.
Ne soutient pas madame. Oui. Ou si monsieur est le grand consommateur du revenu. l'activité.
Voilà.
Donc, du coup, ça pose toujours problème. Les capacités. Les capacités que doivent avoir les femmes pour entreprendre. En fait, lorsque je parlais des capacités, c'était plus des capacités de gestion. Mais déjà, le fait d'avoir une idée, entreprendre, ok, créer une activité. Ce qu'on constate au niveau de la RDC, mais c'est aussi un peu partout ailleurs en Afrique, c'est que lorsque les femmes entreprennent, il y a très peu d'innovation dans ce qu'elles font. Très peu d'innovation. Alors, l'innovation, c'est un peu...
Mais elles sont généralement dans quel genre d'activité?
Bon, généralement, c'est dans les activités, soit au niveau des denrées alimentaires, au niveau de l'habillement, au niveau... plus dans la consommation alimentaire, vestimentaire. Un peu maintenant, on voit qu'il y a des femmes qui créent des agences de voyage, agences événementielles, ainsi de suite, dans les services.
Dans les services.
Voilà. Oui. Beaucoup sont aussi dans les services. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que beaucoup investissent et entreprennent en faisant exactement ce qui est fait sur le marché. Alors, elle n'innove pas.
Il n'y a pas d'innovation.
Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas quelque chose, même au niveau de procédé ou au niveau de produit qu'elle offre sur le marché, qui soit différent et qui fasse en sorte que, il puisse un peu récupérer la part de marché.
De marché, oui.
Voilà, des autres qui sont sur le marché. Donc, il n'y a pas d'innovation. Et donc, elles font la même chose. Mais en faisant la même chose, il y a un autre problème. Et ça, j'ai lu ça à la capacité. C'est que, on ne fait pas l'étude de marché. Vous verrez que sur un même marché, il y a 10 femmes qui offrent le même produit.
Le même produit.
Ok. Est-ce qu'on se posait la question si on peut avoir plus des clients dans ce marché-là ou si on allait un peu plus loin ou si on allait le faire ailleurs? Donc, il n'y a pas l'étude de marché. Donc, tout ça, ça relève de capacité. C'est parce qu'on ne le sait pas. C'est parce qu'on n'a pas été formé par rapport à ça.
Ouais.
Donc, voilà. Des capacités managériales. Est-ce que j'ai mon activité? Comment je gère les hommes? Est-ce que j'ai les capacités de gérer les personnes qui travaillent pour moi? Est-ce que j'ai les capacités de gérer les finances? Est-ce que j'ai les capacités de gérer de manière générale les relations avec les clients? Donc, parce qu'avec les clients, on a plusieurs relations. Est-ce que on a les capacités de mettre en place une communication qui va attirer les clients? Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui sont importantes pour le développement d'une activité, mais que la plupart des femmes ne mettent pas vraiment l'accent sur cela.
Est-ce que les femmes se retrouvent, ou est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des femmes qui sont dans l'industrie, la transformation, dans une chaîne de valeur, par exemple, les unes sont dans la production des piments, les autres dans la transformation, emballage, etc., distribution.
Voilà. Alors, ça, c'est encore ce que je disais tantôt, la collaboration. Travailler ensemble. Donc, collaborer, ça peut être nous créons une entreprise ensemble, tous les deux. Mais collaborer, ça peut aussi être travailler dans un réseau pour cette chaîne de valeur-là. Qui produit les piments? qui donne les intrants pour les piments, le fournisseur des intrants. Ensuite, qui va cultiver les piments? Après la culture, qui va les transformer, qui va les mettre dans les emballages. Donc, il faut avoir ces réseaux-là. Mais ces réseaux, ça veut dire collaborer, savoir qui le fait et dans quelle mesure nous devons travailler ensemble. Donc, tout ça aussi, ça pose un problème au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui limitent le développement de l'entrepreneuriat féminin.
Alors, parmi les stratégies pour booster l'entrepreneuriat féminin, il y a cet auditeur... Bienvenue des Kikwit qui dit qu'il faudrait que le gouvernement donne beaucoup plus de crédits, qu'il y ait une certaine discrimination positive par rapport à l'octroi des crédits. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je suis plus ou moins d'accord avec lui, mais je pense qu'il y a des préalables. Il y a des préalables. Quand j'ai dit préalables, ça veut dire que je pense qu'il faut soutenir les femmes. Et déjà, dans plusieurs conférences, je parle même de la création d'une banque de femmes.
Ok.
Une banque de femmes qui ne s'occupera que de la question de la femme. Mais alors, par préalable...
Une banque de crédit.
Oui, une banque d'épargne et de crédit.
D'épargne et de crédit,
mais
d'accord.
Mais pour les femmes. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi déjà comment faire parvenir ces idées à certaines femmes qui sont là et qui aident les femmes. Leur dire, écoutez, par exemple, la première dame, par exemple, telle, vous pouvez vous mettre ensemble et nous créer une banque de femmes. Parce que cette question de financement des activités des femmes pose problème. Mais alors, pour créer la banque de femmes, c'est pas simplement en se basant sur le fait que les femmes entreprennent et n'ont pas accès au financement, alors on va créer une banque pour leur donner. Non, il faut une logique d'action réfléchie et pensée en amont. Pensée en tenant compte des difficultés que les femmes rencontrent, mais aussi du contexte congolais. Je vais vous donner un exemple. Younous Mohamed qui a créé le crédit des groupes, la microfinance, on lui donne ça, mais ça existait avant lui. Mais lui, il est venu avec les crédits des groupes. À Bangladesh, il a créé la Grameen Bank. Lui, il est parti de quoi? Il est parti des artisans qui travaillaient dans un village et il a commencé à leur donner des crédits des groupes. Mais en amont, il a fait une réflexion sur le contexte. Dans le contexte du Bangladesh, lorsque quelqu'un donne une parole en public, il est obligé de tenir cette parole. C'est dans leur culture. Et donc, quand ils se mettaient ensemble et qu'ils disaient « on va pouvoir rembourser ces crédits », ils remboursaient les crédits. D'où les succès du crédit de groupe à ces niveaux-là.
Mais et cela a permis à ces femmes de développer leurs activités.
Voilà, de développer leurs activités. Mais quand on a ramené ça en RDC, lorsque la microfinance a commencé à émerger, beaucoup d'ONG, beaucoup d'institutions sont venues avec, même Finca, sont venues avec ce modèle-là. Mais ils ont connu beaucoup de difficultés parce que la logique d'action qui était derrière le modèle était liée à un contexte particulier. Ce n'était pas le contexte de la RDC. Et donc, ils ont
là-bas,
eu beaucoup...
on sait tenir parole.
Voilà. Et ils ont eu beaucoup de maux de tête. Alors, ici, avec la question de financement des femmes, avec la banque des femmes, il faut réfléchir comment fonctionnent les femmes en RDC. Il faut mener des réflexions. Il faut voir qu'est-ce qui coince. Je pars d'un exemple simple. Les femmes sont vraiment aptes à se mettre ensemble et à mobiliser les fonds. Il suffit seulement de voir, par exemple, la question de tontine. C'est une pratique financière liée à l'informel. Mais malgré que les institutions de microfinance sont arrivées, moi je suis spécialiste en inclusion financière et puis en microfinance, malgré toutes ces institutions formelles, la tontine...
Cette pratique-là persiste toujours.
La tontine
elle
fait
toujours
résistance.
Okay.
Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique derrière qui est liée au contexte et à la culture locale que l'on peut optimiser, capitaliser en réfléchissant comment est-ce qu'on peut partir de cette logique-là et l'intégrer dans la banque de femmes qui sera peut-être un jour créée. Vous comprenez? Donc, il faut réfléchir, il faut une réflexion sur la situation, l'analyse de la situation et voir quelle théorie de changement on va proposer pour que ça puisse avoir une valeur ajoutée.
Alors, mais certains pensent qu'avant d'octroyer, de créer une banque ou d'octroyer le financement, les femmes ont besoin beaucoup plus de la formation, la capacitation. Elles doivent apprendre, par exemple, à faire le business plan, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est là où je parle de réfléchir sur quel modèle mettre en place. Il faut un business model. Le business model, c'est ce qui vous permet de vous faire de l'argent. Mais dans le business model, il y a beaucoup d'éléments. Il y a dans le business model Canvas, par exemple, il y a 9 éléments sur lesquels vous devez vous focaliser. La relation avec les partenaires, les ressources, la relation avec les clients, le produit que vous allez offrir. C'est là qu'on va pouvoir se dire quel est le problème de femmes. Elles connaissent des problèmes de financement, mais le sous-bassement, c'est quoi? C'est qu'elles n'ont pas de garanties, elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas telle capacité, telle autre capacité. Et je suis d'accord avec vous, on peut mettre en place toute une logique avant d'accès au financement, de suivre un processus qui va les capaciter et que lorsqu'ils auront le financement, ce financement-là pourra être bien fructifié.
C'est comme actuellement, on a le projet Transform du gouvernement avec la Banque mondiale. À l'époque, c'était PADEM PME, projet d'appui et développement des petites et moyennes entreprises, qui est devenu le projet Transform avec un financement de 300 millions de dollars. D'ailleurs, aujourd'hui, actuellement, ce projet est en train de recruter les femmes qui seront formées et puis financées. Après, on va pas donner de l'argent, ce sera juste, on peut acheter pour vous le matériel, tout ça, et vous permettre de fonctionner. Alors, qu'est-ce que vous pensez ce projet transforme du gouvernement congolais?
C'est un très bon projet. Tout ce que je peux demander à ces projets, c'est vraiment de regarder les besoins réels des femmes. C'est tout. C'est un très bon projet, mais si on se focalise sur le réel besoin de femmes, on pourra avoir, ces projets peuvent avoir une vraie valeur ajoutée et transformer l'entrepreneuriat féminin en RDC. Mais il faudrait que ce financement, vous dites, on veut financer le matériel, le tout ça, mais ce dont les femmes ont vraiment besoin, c'est des capitaux qui vont avec lesquels ils vont démarrer. C'est vrai que les capitaux peuvent servir aussi à financer les matériels et tout ça, mais je pense qu'il faut vraiment bien regarder les besoins réels au niveau des femmes. Alors ici, généralement, nous avons beaucoup de projets, mais la plupart de nos projets échouent parce que on ne fait pas une analyse efficace de la situation. On analyse la situation de manière superficielle. Les femmes ont besoin de financement, donc on leur donne des financements. Mais à part les financements, il y a pas mal de choses qu'il va falloir faire. Et peut-être avec ce projet-là, quand vous parlez de formation, capacitation et tout ça, je pense que ce sont de bonnes choses. C'est une bonne chose pour les femmes qui vont rentrer dans ce projet-là.
Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo? Appelez-nous pour participer au 099-706-9941. 099-706-9941.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, je vais lire quelques réactions des internautes. Merci d'avoir réagi sur la page Facebook de l'émission Okapi Service sur ce sujet, l'entrepreneuriat, le développement de l'entrepreneuriat féminin. Charles Kabouaya nous dit, une femme entrepreneur doit être comment? Voilà. Pourquoi vous entreprenez dans les métiers tels que la coupe et couture, voilà, être chauffeur, voilà, et etc. Ça, c'est Charles qui nous le dit. Une femme entrepreneur doit être comment? Voilà, c'est sa question. Et puis, il y a un autre internaute nous dit ceci. Frère Patty nous dit que parmi les obstacles à l'entrepreneuriat féminin, il y a aussi le manque d'instruction. Beaucoup de femmes ne sont pas instruites, elles sont analphabètes, tout ça. D'après lui, ça peut aussi constituer un obstacle. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, professeur?
Ok. Une femme entrepreneur doit être comment? L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. C'est, entreprendre, mettre en place l'activité. On peut être une femme ou un homme. Aujourd'hui, on se focalise sur la question de la femme parce qu'on a constaté que il y a quand même pas mal d'obstacles, pas mal de problèmes avec l'entrepreneuriat féminin. Il y a même un auditeur qui l'a dit, que nous tous, nous connaissons des problèmes, mais les femmes, chez les femmes, c'est un peu plus prononcé. D'accord? Alors, une femme entrepreneur doit être comment? Ça doit être une personne humaine qui réfléchit sur un besoin au niveau de la société ou au niveau du marché et qui se décide de répondre à ces besoins-là. Et j'insiste sur le côté innovation. Il est vraiment important que lorsqu'on veut entreprendre, et je pense que la formation que la plupart d'entrepreneurs doivent suivre, c'est vraiment une formation sur l'innovation. Une innovation, ça peut être incrémentale ou alors une innovation disruptive. Ça veut dire qu'on a, on crée la rupture avec l'existant ou on améliore l'existant. Si on veut avoir plus de clients ou une plus grande part de marché, comme on l'a dit, il va falloir offrir quelque chose qui, voilà, répond aux besoins de la clientèle, aux besoins du marché et qui vous donne un avantage concurrentiel. Ça veut dire qu'il vous donne un avantage par rapport à vos concurrents. Ça va? Et donc, du coup, une femme entrepreneur doit penser à tout ça. Ne doit pas seulement se dire, je veux entreprendre. Même la personne qui va entreprendre dans la coupe et couture, je pense que c'est une très bonne idée. Mais après, quel genre de coupe et couture vous allez faire? Est-ce que vous allez proposer des modèles qui sont innovants et qui font beaucoup plus plaisir aux personnes qui vont le porter, ou vous allez vous mettre à coudre de la même manière que les autres le font? Parce que si moi, par exemple, vous me donnez pas quelque chose de plus, une valeur ajoutée, je viens pas chez vous. Je serai mieux là où je suis. Donc, il faut vraiment intégrer la notion de l'innovation.
L'innovation.
Oui. Et en RDC, franchement, nous sommes dans un chantier.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment la possibilité d'innover. Et
dans quel secteur, par exemple, professeur?
Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Si vous voulez, par exemple, par rapport à le côté agroalimentaire. Donc, on va faire des cultures et tout ça, mais après, on peut innover dans la transformation alimentaire. Tout ce que nous consommons dans les supermarchés, ce sont évidemment ces cultures-là qui ont été transformées, mais à l'extérieur. Peut-être pas par rapport à nos goûts, par rapport à nos saveurs, mais par rapport à ce qui se passe chez eux. Mais nous, nous pouvons innover. Nous, nous aimons par exemple notre piment, un peu frit avec de l'oignon et de l'huile. Mais quand on nous présente des piments dans des boîtes, c'est vraiment des piments juste, on a concassé et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas ceci. C'est pas notre saveur, mais bon, on accepte ça.
On
mais
est obligé, les,
voilà. Bon, on n'est pas trop obligé. C'est là où l'entrepreneur peut venir et dire, moi, je vais proposer quelque chose comme ceci, comme cela, et je vais innover, par exemple, avec telle manière de présenter cela, telle autre manière de présenter cela. Et donc, même le chauffeur, il peut y avoir une femme qui fait le transport en commun. Mais bon, comment est-ce qu'il va peut-être décorer son taxi?
Voilà.
Qui va attirer la clientèle. Donc, il faut vraiment que cette idée d'innovation maintenant soit propagée au niveau des entrepreneurs. Ça amènera un plus,
l'innovation. Alors, pour innover, est-ce qu'il faut une formation particulière ou bien qu'est-ce qu'il faut?
Pour innover, bon, déjà sensibiliser à l'innovation, former.
Un instant, professeur, on D'accord. a une auditrice, Madame Clémentiel Kankou, depuis Lubumbashi. Tati, c'est Clémentine ou Clémentiel? Voilà, elle est à Lubumbashi. Bonjour, madame.
Oui, je suis à Lubumbashi. Je suis la coordonnatrice d'une association de veuves. J'avais perdu mon époux pendant le refoulement. Et maintenant, j'ai mes documents. Tous mes documents sont légaux. Je m'occupe de veuves. Dans l'apprentissage, nous faisons la coupe et couture. Et la coupe et couture et puis la boulangerie. Mais maintenant, nos activités sont en dégradation.
Et pourquoi?
On avait travaillé avec PNMLS dans la lutte contre le VIH-SIDA. Et maintenant, nous n'avons pas un organisme qui nous soutienne. Nous avons fait des projets sur la scolarisation de nos orphelins et sur la coupe et couture. Il nous reste que deux machines seulement, mais nous sommes nombreuses. Nous demandons aussi si Monisco ou bien Okapi peut venir nous rendre visite et voir ce qu'on peut faire. J'élabore le projet puisque je suis élaboratrice des différents projets sur les activités agro-pastorales. Mais nous manquons quelqu'un qui peut nous soutenir.
D'accord. Vous encadrez combien de femmes, madame?
Pour le moment, nous sommes restés qu'à 20 seulement. Dans les temps, on était dans les septantaines, mais à cause de la dégradation de nos activités, nous sommes qu'à une vingtaine seulement.
D'accord. Merci, madame Clémentia Kankou de Lubumbashi. Oui. Professeur Dédé, à vous la parole.
Oui, remercier madame et puis l'encourager par rapport à ce qu'elle fait avec les femmes veuves. Mmh. Si les femmes, de manière générale, ont du mal à avoir accès à l'emploi, aux revenus, et les femmes veuves connaissent encore une situation beaucoup plus compliquée et difficile. Okay. Mmh. Donc, merci madame pour le travail que vous êtes en train de faire. Maintenant, je pense que tous ces projets-là qui financent les femmes nous suivent, nous écoutent, et donc ils vont pouvoir sûrement vous contacter, vous aider. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est de continuer à espérer, mais surtout à travailler aussi au niveau des 20 femmes qui restent. Parce que si elles commencent, elles travaillent comme il le faut, même avec ces deux machines-là, il est possible de petit à petit redynamiser votre activité. Et je pense que même à Lubumbashi, il y a beaucoup d'ONG et d'organisations qui sont dans la formation de femmes. Vous pouvez les contacter pour qu'on les forme, mais pas seulement en coupe et couture. On peut les former dans...
Elle a parlé aussi de la boulangerie.
Voilà. Même la boulangerie ou autre chose. Par exemple, la fabrication de produits de nettoyage, la transformation alimentaire. Donc, il faut diversifier vos activités pour permettre à ce que vous ayez des revenus qui viennent des différents domaines. Ça pourra peut-être aider votre structure.
Je pense que le projet Transforme sera aussi à Lubumbashi. Oui. Ils vont recruter les femmes pour les soutenir, les former d'abord et puis accorder des financements, des subventions, etc. Alors, donc, nous parlons aujourd'hui des stratégies de promotion de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure de l'innovation. Les femmes doivent apprendre à innover, à créer, mais elles sont beaucoup plus, comme vous l'avez dit, dans les services et puis dans la transformation légère. Je ne sais pas s'il faut appeler, on peut l'appeler l'industrie légère, etc. Beaucoup plus dans les domaines alimentaires. Mais pourquoi elles ne peuvent pas aussi entrer dans d'autres secteurs?
Mais tout dépend. Je vous avais dit que la plupart des femmes viennent sur le marché et font ce que les autres faisaient déjà avant. C'est là où je parle un peu d'innovation, de réfléchir sur comment, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. Si je veux faire, par exemple, la transformation alimentaire, alors j'ai réfléchi à une manière nouvelle ou améliorée de faire de la transformation alimentaire. Ça, c'est déjà l'innovation à partir du moment où ça va être diffusé, ça va être utilisé par les marchands. On peut parler de l'innovation. Parce que si vous créez ou vous fabriquez un nouveau produit, vous inventez quelque chose et que personne ne l'utilise, ça reste une invention, c'est pas une innovation. L'innovation, c'est à partir du moment où c'est diffusé et c'est utilisé. Donc ça c'est une chose, mais les femmes peuvent aussi penser à d'autres secteurs où il y a pas, par exemple dans l'industrie, par exemple dans la mécanique, dans l'informatique, les hardware. Parce que la plupart des femmes sont plutôt dans le software et tout ça, les hardware. On peut avoir des femmes par rapport à ça. Nous, par exemple, au niveau de Leadership Academia, on a mis en place des centres de formation. Ça veut dire que nous formons l'élite congolaise au niveau supérieur. Mais à côté, nous avons d'autres formations qu'ils peuvent suivre pour pouvoir leur donner plusieurs atouts et développer leur côté entrepreneurial. Vous voyez? Mmh. Donc, ça veut dire qu'on peut être universitaire, mais aller dans un centre de formation, apprendre la transformation alimentaire, apprendre la fabrication de produits de ménage, et puis, puisqu'on a déjà les connaissances de comment gérer tout ça, mettre en place son entreprise et, la développer.
Mmh. Est-ce que le fait de ne pas avoir étudié peut constituer un frein à l'entrepreneuriat féminin?
Alors, pour entreprendre, non. Par contre, pour développer les activités, oui. Parce que je vous avais dit, on a besoin de capacités managériales. Mmh. Et ça s'apprend. Et donc, ce que je pourrais conseiller à mes chers... sœurs congolaises, c'est que lorsque vous avez une idée que vous pensez que ça marche, continuez là-dessus, mais cherchez à vous former. Cherchez à vous former. Il y a plusieurs associations de femmes qui offrent des formations dans le cadre de gestion et tout ça. Cherchez à vous former, ça sera vraiment un plus par rapport à ce que vous faites.
Et la formation doit, par rapport à la gestion, ça porte sur quelle matière?
Mais dans la gestion, il y a plusieurs aspects. Déjà, la gestion de stock, les stocks que vous avez. Je ne sais pas si vous êtes dans une, vous créez une entreprise commerciale. Donc là, vous ne transformez rien, vous achetez les marchandises et vous les vendez. Mmh. Donc, on doit déjà avoir une connaissance sur comment gérer les stocks, les fiches de stock, les inventaires et tout ça. Ça c'est super important. Mais aussi, de manière générale, gérer l'entreprise dans son ensemble.
Vous avez des
produits et donc vous devez savoir gérer par exemple vos coûts en termes du personnel, ok, ressources humaines comme vous étiez en train de dire, comment on gère le personnel. Il y a et la loi et le principe managérial par rapport à ça. Donc ressources humaines. Vous devez aussi savoir gérer vos finances. Bon, vous avez les capitaux, vous avez des entrées. Comment est-ce que vous allez faire pour investir cela et faire en sorte que l'entreprise puisse avoir une bonne santé financière? Ça, c'est... En fait, vous avez... La gestion couvre un peu beaucoup de choses. Il y a la planification. Vous devez savoir planifier les choses. Vous devez mettre en place un système de contrôle. Parce que si vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas si vous êtes en conformité avec le marché, avec la loi, mais aussi avec tout ce que vous faites, c'est pas possible d'avancer.
Bien, professeur Dédé Aliango Marashto, voilà.
Oui.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général académique de Leadership Academy University.
Oui.
Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous dire grand merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci à vous. Excellente journée aussi.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivie. À la prochaine.